Donc oui, je suis psychologue clinicien, psychanalyste. Donc je coordonne plusieurs blogs en fait, dont notamment celui-ci qui était hébergé par lemonde.fr avant et voilà, et dont l'objet est le suivant, décrypter nos manières contemporaines de vieillir. Bah, parce que vous êtes bien rendu compte que le vieillissement, c'était vraiment une question, c'était dans l'air du temps. Je veux dire, depuis une dizaine d'années, on parle du vieillissement et pas toujours en termes déficitaires, mais aussi en termes culturels, en termes sociologiques, etc. Et comprendre ce qu'elles disent de nous. C'est-à-dire qu'une un des postulats qu'on avait quand on a créé ce blog, c'est que de comprendre comment les gens vieillissaient permettait aussi de comprendre l'évolution de la famille, les interactions avec les générations et comprendre aussi comment les enfants, les adolescents, se développe. Moi, j'ai un cabinet libéral à Caen. Et pour vous illustrer comment je conçois le vieillissement, il y a une quinzaine d'années, j'ai rencontré deux personnes le même après-midi. J'intervenais à temps partiel dans un EHPAD et je rencontre un centenaire et qui a créé un restaurant très connu à Paris et qui était donc en EHPAD, et il me raconte, voilà, il me raconte des choses, et notamment qu'il adorait, quand il revenait de l'internat, il adorait, et qu'il rentrait chez lui, aller dans les arbres, parce que dans les arbres, ça le tranquillisait, il sécurisait. Je termine ma consultation sur l'EHPAD, je vais sur mon cabinet, je reçois un enfant de 7 ans, et il me dit la même chose. Ben, voilà comment je conçois, on va dire, la question du vieillissement, c'est-à-dire qu'au fond, notre corps vieillit. Je ne suis pas sûr que psychiquement on vieillisse, et que donc c'est la difficulté justement de faire avec, quant au désir, quant au rapport aux autres et à soi-même, de faire avec le temps qui passe, le temps qui s'imprime sur le corps, et en même temps quelque chose qui ne vieillit pas. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a toujours des ados de 14 ans qui lisent Balzac, et vous avez des gens qui ont 95 ans qui lisent Balzac. Et la manière qu'ils ont de lire le livre, ah ben oui, c'est pas tout à fait. Il n'y a pas la même expérience, mais n'empêche qu'ils rentrent dans le roman, dans un même roman, d'une manière aussi forte. En fait, la culture, elle n'est pas. Certes, on adapte la culture, on va dire, au public, mais en même temps, la culture, elle est hors âge. La culture, elle est là à disposition de qui a envie ou veut bien s'en saisir. Ou comment vous allez créer les conditions pour que les gens s'en saisissent, puisque c'est un peu, on va dire, l'objet de la journée. Donc, on a monté une petite association qui est plutôt, on va dire, un think tank, qui s'appelle les pas de côté, et donc, on était vraiment dans l'air du temps, c'était il y a 7-8 ans, avant les scandales Corian et Orpea qui sont apparus récemment. Et l'idée, c'était de réinventer l'EHPAD et soutenir les alternatives, parce qu'il y a beaucoup d'alternatives. Il existe énormément on va dire, d'utopies concrètes ou d'inventions sur tout le territoire français quant à la manière de vieillir, quant à la manière de s'inscrire dans des interactions et dans un environnement. Donc, je suis co-directeur d'une collection qui s'appelle L'âge et la vie. Et j'ai écrit de manière collective plusieurs livres, dont le dictionnaire impertinent de la vieillesse, qui était un ouvrage collectif. Alors, au fond, moi, mon intervention, ce que je voudrais, c'est que ça vous amène à, je sais pas, à cogiter, quoi, et éventuellement à donner des idées concrètes ou d'applications. Donc j'aurai, on va dire, trois temps. Le premier temps, c'est le vieillissement d'un point de vue psychologique, ensuite le vieillissement avec un éclairage sociologique, et puis ensuite on rentrera sur des pratiques culturelles et le public empêché, les EHPAD et ce genre de choses. D'abord, donc, je vous ai dit, vieillir est dans l'air du temps. Et il suffit de voir les mots. Il y a énormément de mots qui ont été créés, qui sont inventés pour qualifier au fond la question du vieillissement. Ces mots-là, ils ont toujours un problème. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la chose de vieillir, qui n'est pas facile, et que les sociétés, il y a quelques siècles, on n'avait pas le même rapport au vieillissement qu'actuellement, et que les sociétés ont parfois du mal à valoriser. Donc il y a un écart entre la chose et les mots. Et il y a tout un tas de mots qui sont là pour ne pas dire la chose. On vieillit, par exemple. Alors, si je donne quelques définitions, il faut distinguer le vieillissement de la vieillesse. Le vieillissement, c'est un processus. On vieillit. La vieillesse, c'est un état. Et d'un point de vue psychique, c'est un état subjectif. On se sent vieux. Pourquoi on se sent vieux ? Un exemple assez banal, quoi. Vous prenez le métro à Paris ou ailleurs, d'ailleurs. Et puis, à partir d'un moment donné, on va se lever pour vous offrir une place. Et à partir d'un certain âge, c'est pas sûr que ça fasse plaisir, parce que ça renvoie quelque chose de l'image. Et vous voyez bien que, déjà, en disant le mot image, il y a toute une dimension, on va dire, du vieillissement. C'est-à-dire que le fait de vieillir, c'est aussi se confronter à une image. Donc la vieillesse est un état subjectif, mais c'est aussi, la vieillesse, elle dépend beaucoup des représentations sociales et sociétales que la société produit. Il y a une question qui est devenue particulièrement aiguë, c'est la question des seuils. À partir de quel âge on est vieux, d'ailleurs. Et durant le Covid, c'était la valse des chiffres. C'est-à-dire que tantôt, c'était à partir de 65 ans, tantôt qu'il fallait se faire vacciner. Ou bien c'était 60 ans, parfois c'était 50 ou 55 ans. Et les gens, à chaque fois, ils étaient en train de se situer toujours par rapport à l'âge qui nous était renvoyé. Et qui nous renvoyait quand même quelque chose, si on était en deçà de 65 ou au-delà, ou en deçà de 55 et au-delà, et en deçà de 80, parce qu'on disait, la mortalité, c'est 80. Donc on était... Imaginons quelqu'un qui a plus de 80 ans, on lui donne un message à travers un message global qui est que la mort est proche. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment un aspect très intéressant, mais en même temps très anxiogène, parce qu'on est des sociétés qui sont très anxiogènes. On le voit encore avec la manière dont on traite soit le climat. La manière dont on traite le climat est très anxiogène. Alors qu'il y a un réel problème de climat, on n'est pas obligé d'être angoissé par le fait qu'il y a des choses à faire. Donc c'est une société qui ne favorise pas un certain sang-froid, on va dire. OK, il y a un problème, comment on fait ? Et ce climat anxiogène, il était particulièrement évident durant le Covid, qui d'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, c'est comme si c'était très loin. C'est incroyable, on a vécu pendant 2 ans dans le Covid, on mangeait et on dormait et on buvait du Covid toute la journée. Et là maintenant, il y a une guerre, donc c'est venu se substituer, mais en quelque sorte, mais j'ai l'impression que c'est loin, alors que c'est pas si loin que ça. Et quand on lit des choses sur le Covid, c'est quelque peu irréel, je trouve, qu'on ait vécu ça. Donc alors, je vous disais les mots et la chose. Donc dans les politiques publiques, dans la manière de nommer le fait de vieillir, le fait d'être vieux. Vieux, c'est un mot qui jadis était clair, comme on est jeune, on est vieux, quoi. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça, on va dire. Mais maintenant, vieux et vieille, c'est devenu, ça pèse, quoi. Je veux dire, voyez. Donc on essaye de trouver des mots de substitution. Donc on va remplacer vieillissement par longévité. Vieillissement, il y a le mot vieillir. Quand il y a le mot vieillir, il y a derrière le mot mourir, qui n'est pas très loin. Plus on vieillit, plus on s'approche de la mort. Longévité, et on parle de la même chose. Longévité, c'est comme c'est comme les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, c'est une espèce de... Il n'y a pas de fin, longévité. Et d'une certaine manière, ça permet d'évacuer quelque chose qui serait angoissant. Mais moi, je trouve que c'est plus angoissant de mal nommer, comme disait Camus, mal nommer les choses aggrave le malheur du monde, mal nommer la chose de vieillir, je ne sais pas si ça aggrave le malheur, mais en tout cas, je pense que ça potentialise une certaine angoisse dès lors que j'ai des retours sur le fait que je suis en train de vieillir. Donc l'espérance de vie, elle varie. Je pense qu'elle a un peu baissé durant le Covid et puis elle va reprendre. Après, il y a l'espérance de vie de 86 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes. Et après, il y a l'espérance de vie valide, qui est quand même un peu moins réjouissante, on va dire. Alors, pendant longtemps, on parlait des personnes âgées. D'ailleurs, on en parle toujours. Parce que la personne âgée, c'est toujours l'autre. Je suis toujours la personne âgée de quelqu'un. Je veux dire, j'ai 30 ans et je discute avec un enfant de 8 ans, je suis une personne âgée. D'ailleurs, je suis vieux, quoi. C'est ce qu'il va dire. Il va me dire que je suis vieux. Donc, la personne âgée, vous voyez que c'est définit ainsi une personne ayant dépassé l'espérance de vie attendue à sa naissance. À l'origine, cette définition, elle n'est pas si idiote que ça, mais on ne l'utilise plus dans ce contexte-là, parce que personne ne sait quelle était l'espérance de vie lorsqu'on est né. Personne ne pense à ça, d'ailleurs. Ce serait d'ailleurs intéressant qu'on sache, quand on est né, quelle est notre espérance de vie. On pourrait se dire, j'ai un rab. Alors un senior, puisque l'expression senior est l'expression qui, comme le mot longévité, est venue se substituer, on va dire, aux personnes âgées, aux vieux, etc. Je n'ai pas trouvé une meilleure définition, et je vais vous expliquer pourquoi, que celle de Wikipédia, que je trouve parfaite. Donc un senior est une personne plus ou moins âgée. Voilà, au moins c'est dit. Ou faisant partie d'une catégorie dite des seniors. vous voyez, alors pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, un senior comprend une séquence de vie qui est très variable. Grosso modo, selon les domaines, etc. Mais actuellement, on considère qu'un senior, c'est 50-55 ans, qui est quand même relativement jeune, on va dire, jusqu'à la fin de vie, c'est-à-dire centenaire et au-delà. Donc, évidemment, qu'y a-t-il de commun entre quelqu'un, admettons, qui a 55, voire 60 ans? Parce qu'il semblerait que 60, ça soit une espèce de chiffre. Qu'y a-t-il de commun et quelqu'un qui a 100 ans, on va dire? Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Qu'est-ce qu'elle a de commun, une femme de cet âge-là, avec une aînée qui a 40 ans de plus? Moi, je dirais que la femme qui a 55-60 ans, elle est beaucoup plus proche de celle de 30 ans, en termes de séduction, en termes de désir, en termes de sexualité. Elle est beaucoup plus proche de celle de 60 ans que d'une femme qui a 100 ans. Et encore une fois... c'est un marronnier qui sort chaque été sur la sexualité des gens qui ont 70-80 ans, la manière dont ils fréquentent les sites de rencontre. Il y a beaucoup de seniors qui utilisent ces sites de rencontre, même Tinder. Alors que Tinder, c'est vraiment une application qui est associée à, on va dire, à la jeunesse. Vous voyez ? Et donc... Donc, qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ces gens-là? Moi, je trouve qu'il n'y a pas tant de choses en commun, et donc il va nous falloir quand même un peu comprendre qu'est-ce que c'est que le fait de vieillir. Je ne sais pas s'il y a des étapes, mais il y aura quand même des situations, et c'est évident que ce n'est pas la même chose si on va dire... par exemple, il y a un mot qui vient d'apparaître depuis quelque temps qu'on appelle un quinquado, ou une quinquado, puisque c'est quand même assez féminin. Donc, une quinquado, c'est une quinquagénaire, on va dire... 50-60 ans, c'est un sociologue qui est à l'origine de ce nom, qui applique un mode de vie tel les adolescents. Alors les adolescents, d'ailleurs, vous savez quelle est la fourchette qui caractérise les adolescents? Définition de l'OMS, hein. 11 à 24 ans. 11 à 24 ans. Voilà l'adolescence. Donc les seniors, on va dire, si c'est 50-60 ans, il ne reste pas grand-chose pour la période dite adulte adultes, bah, parce que les seniors sont des adultes, hein, au fait, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'est pas des adultes. Hein. Mais adultes en âge de, je sais pas quoi d'ailleurs, mais adultes, même pas matures, puisque au fond, on est jeune adulte, on n'est pas forcément mature. Donc vous voyez, il y a ce qui caractérise notre société, c'est quand même des frontières mouvantes entre les âges. Et donc si je reviens sur les quinquados, donc ce sont des quinquagénaires, on va dire, mais bon, c'est plus ou moins quelques années, qui retrouvent un mode de vie comme quand ils étaient jeunes adultes ou grands ados, plus de la vingtaine. C'est-à-dire, on se réunit entre copains, copines, on part, etc. Et pourquoi ? Parce que les enfants sont grands, qu'ils ont déjà leur, d'une certaine manière, une certaine autonomie, que le couple y tient pas forcément, et que donc il y a tout un tas de relations et d'interactions et de pratiques sociales et intimes qui sont de ce ressort-là. Peut-être on verra pourquoi d'ailleurs. Donc seigneur, et on parle même d'une société des seigneurs, parce qu'au fond, parce que ça fait vendre, parce qu'il y a ce qu'on appelle la silver economy, et qu'il y a derrière des enjeux économiques. D'ailleurs le terme seigneur, son origine, c'est le marketing. Le mot seigneur est un mot issu du marketing. Et vous verrez, puisque j'illustrerai ça d'une page ou deux, quoi, on va dire, vous verrez que on comprend le lien. Alors, au fond, qu'est-ce que c'est que vieillir ? Alors, bah, je vais le reprendre un peu après, mais à partir de quand vieillit-on d'ailleurs ? Jusqu'à quel moment on grandit et à partir de quand on vieillit ? On pourrait se dire qu'on vieillit dès la naissance. Mais bon, donc, en étant précis, oui, c'est vrai qu'on vieillit, mais sauf que ce vieillissement, on l'appelle grandir, se développer, quoi. Donc au fond, il y a une sorte de convention entre quand même une majorité de psy, de sociologues, etc., sur le fait qu'au fond, la question du vieillissement, elle vient en milieu de vie, la quarantaine, la cinquantaine, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Et qui se caractérise, je le reprendrai tout à l'heure, mais qui se caractérise par un rapport au temps. Un rapport au temps qui change. Et pourquoi ce rapport au temps change ? Parce qu'on a un rapport au corps qui change. Pourquoi on a un rapport au corps qui change ? La médecine, par exemple, pour qualifier les adultes ou les enfants, elle parle du silence des organes. C'est-à-dire que la plupart du temps, sauf si on fait un effort, si on a une jouissance sexuelle intense ou je ne sais quoi, ben on ne sent pas son corps, on n'est pas gêné par son corps, ou un problème dedans. À partir d'un certain âge, le corps commence à envoyer des signaux. Ben d'abord, on ne monte plus les marches 4 à 4, mais 2 à 2 ou 1 à 1, mais donc des signaux, on va dire, de capacité physique, mais des signaux aussi du corps en tant qu'image. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des rides où ma femme ou mon mari a des rides, donc me renvoie quelque chose. Si ma femme ou mon mari a des rides, ben ça renvoie quelque chose. Ou des cheveux blancs, enfin tout un tas d'indices qui montrent que le temps passe. Qui montrent, et donc puisque le temps passe, la question de la finitude commence à apparaître. Alors qu'avant, honnêtement, ce rapport à la finitude, tout le monde sait intellectuellement qu'il va mourir. Mais personne, sauf à partir de certains moments ou quand on est atteint de maladies graves, mais personne ne se comporte, fort heureusement d'ailleurs, comme s'il pouvait mourir dans la journée. Il y a des gens, je reçois parfois des gens, ils ont une telle angoisse que de sortir de chez eux ou que leurs enfants sortent de chez eux, qu'il peut arriver n'importe quoi. En effet, il peut arriver n'importe quoi, sauf que la plupart du temps, il arrive la même chose que la veille et que le lendemain, ce qu'on appelle le quotidien. Donc se remanier son rapport au temps, au passé, au présent, au futur, qui change. Donc c'est quand on commence à compter le temps qui nous reste. Par exemple, moi ce qui m'avait frappé dans certains EHPAD, donc il y a toujours une espèce de grande salle où les gens sont soit devant la télé, soit ils discutent ou ils disent rien du tout, mais parfois ils discutent quand même. Et ce qui m'avait frappé, c'est l'intérêt pour la rubrique nécrologique. C'est intéressant, la rubrique nécrologique, parce que c'est quand même intéressant de savoir de savoir si quelqu'un de la même commune que je connais, etc., j'apprends qu'il meurt, donc je peux en être triste, étonné, etc. Mais ce qui m'avait frappé en discutant avec certains résidents, c'est le calcul mental. C'est-à-dire que beaucoup calculent. Tiens, il est mort à tel âge, moi j'ai tel âge. Tiens, il est mort à cet âge-là, moi ça fait... j'ai dépassé cet âge-là de 5 ans. Donc, par là, on voit qu'il y a tout un... C'est une activité mentale à laquelle ni vous ni moi, on ne prête attention, puisque ça nous traverse l'esprit, et puis, comme tout un tas de choses nous traversent l'esprit, hein. On a dans la conscience un certain nombre de choses, on va dire, puis on a d'autres éléments qui nous traversent l'esprit, que ce soit des fantasmes, des scénarios, ou des calculs comme ça. Pourquoi ? Pour toujours essayer de se situer. On essaye toujours de se situer les uns par rapport aux autres. Alors, voilà, donc il y a toute cette activité que je trouve intéressante. Et alors, distinguer le futur et le devenir, parce qu'à un moment donné, alors peut-être pas à la soixantaine, on va dire, mais 80, 85 ans, avec plus ou moins de dépendance, le futur, somme toute, on ne peut pas tellement miser dessus. Il peut être assez trop proche. Par contre, le devenir, c'est-à-dire devenir d'une journée à l'autre, devenir se projeter sur, je sais pas quoi, une sortie de restaurant dans une semaine, c'est-à-dire une manière de se projeter dans le temps, tout en n'ayant plus cette espèce de garantie que le futur était lointain. Vous voyez, et ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça va expliquer aussi pourquoi, mais chez des personnes plutôt très âgé, pourquoi la question du présent est fondamentale. Le présent et devenir dans ce présent, la vie est toujours intéressante, dès lors qu'on a renoncé au fait qu'il n'y avait pas le futur, comme quand on a 10 ans ou 40 ans ou je ne sais quoi. Donc vieillir, c'est aussi un processus de remaniement dans son rapport aux autres. Je ne développe pas tellement, mais c'est tellement évident que ça soit par rapport à sa propre famille. C'est pas la même chose si je suis le fils et le petit-fils de quelqu'un que si je suis le père, le grand-père ou l'arrière-grand-père de quelqu'un. Il y a donc tout un rapport. Donc il y a aussi tout le rapport avec le conjoint. Voilà, donc il y aura énormément de choses à dire, mais donc vous pouvez imaginer. Dans son rapport aux autres, vous l'avez dit sur le bénévolat, c'est vrai que. On va dire il y a trois temps majeurs dans la vie d'un être humain où il y a un investissement du bénévolat. Le principal moment, c'est quand même autour de la retraite, on va dire, et après la retraite. Donc là, il y a quand même... Mais vous avez des jeunes qui ont, je ne sais pas, 18 avant le bac, surtout après le bac, qui s'engagent dans un bénévolat. Pas toujours le même, d'ailleurs. Et puis, vous avez ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire la crise du milieu de vie. Au fond, qu'est-ce que c'est que la crise du milieu de vie? C'est qu'on réinterroge ses idéaux de quand on était jeune, adulte. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, où j'en suis de ma vie? C'est pour ça que, parfois, ça peut créer des conflits de couple, voire des séparations, des divorces, puisqu'au fond, les gens commencent à émerger d'une séquence de vie, là, et ils se disent, mais est-ce que c'est moi, là? Est-ce que je m'y retrouve dans cette vie-là, dans ce boulot-là, dans ce couple-là, etc. Donc il y a, alors le plus souvent c'est un peu mineur, on va dire, mais il y a quand même chez un nombre important de gens une crise assez spectaculaire. Voilà. Enfin, et donc je reviens sur le bénévolat. Ben oui, je pense que quand on est vieux, c'est un temps pour prendre soin des autres. Bon, de sa famille, ses petits-enfants, etc., mais aussi de prendre soin des autres dans le rapport social. C'est une manière de sublimer quelque chose. Remanier son rapport, donc un processus de remaniement dans son rapport à nous-mêmes, et notamment au corps, accepter que notre corps, il n'est plus aussi puissant. Voilà, ou qu'il n'a plus tout à fait les mêmes capacités, c'est pas simple. Ça demande un travail mental, si vous. Et puis à l'image, notre image, le rapport qu'on a à notre image, il a une caractéristique, c'est que notre image, elle est fixe. C'est comme une icône. Donc, quand vous vous regardez, d'ailleurs, dans la façon que vous avez de vous regarder, vous vous regardez toujours de la même manière, toujours avec un même profil. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on se balade en ville et qu'il y a des magasins avec des glaces, et d'un seul coup, parfois, on voit une image se précipiter devant nous et se dire, mais c'est pas moi, ça. C'est parce qu'on n'a pas... On n'a pas familiarisé ce miroir, puisque on était surpris par le miroir. Il nous renvoie à ce moment-là une image qui ne colle pas avec l'image idéalisée qu'on a de soi. Donc le rapport à cette image-là, il passe par des successions d'une image qui dure un certain temps, puis à un moment donné, suffisamment d'éléments, soit réels, objectifs du corps, soit de mon conjoint qui me renvoie, ou de ma conjointe qui me renvoie des choses, ou de je ne sais qui fait qu'on va se réapproprier une nouvelle image qui va nous permettre de tenir pendant quelques années, jusqu'à temps que cette image ne nous tienne plus, et on reprendra une autre image. Et donc, on est toujours en train dans un rapport à cette image-là. Et pourquoi on a besoin d'avoir une image? D'abord parce que l'image, l'image est fixe. Narcisse, c'est d'une image fixe dont il tombe amoureux. Narcissisme, c'est un rapport à une image fixe. Quand il se regarde, l'eau, elle n'est pas troublée. Si l'eau, elle est troublée, c'est pas une image, on va dire, c'est une sorte de film. Donc, et d'ailleurs, chez le jeune enfant, vous voyez bien, à un moment donné, très jeune enfant, à quel point il est intéressé par le rapport au miroir, qui retourne et qui découvre que cette image, chez lui, au départ, si vous vous souvenez, non pas de votre petite enfance, mais des gens de votre entourage, au départ, ça ne suscite rien. Et puis, à un moment donné, le très jeune enfant se rend compte que cette image, c'est lui. Et donc, il va s'approprier. D'ailleurs, c'est un élément fondamental de la construction de son identité. Mais il va partir comme ça sur des images fixes. Évidemment, chez l'enfant et l'adolescent, l'image évolue beaucoup. Donc, remanier son rapport au monde, tout un travail d'investissement, de désinvestissement, et peut-être ça sera intéressant de voir au niveau des médiathèques et des bibliothèques. Alors, sur le plan, psychique, quels sont les enjeux? Donc, le vieillissement, c'est un processus, le plus souvent qui est inconscient. On n'est pas en train de se prendre la tête. De temps en temps, on peut en parler entre amis, ou on lit quelque chose, ou on voit quelque chose qui nous interroge, ou bien on a une idée qui nous traverse l'esprit. Mais le plus souvent, le processus, il est quand même à notre insu, c'est-à-dire inconsciemment. Et ce processus, il est évolutif ou par crise. Soit il se fait, on le remarque à peine, soit il se fait par crise parce qu'à un moment donné, un conflit de couple, un mari qui quitte sa femme, qui a une maîtresse ou qui se marie avec une femme beaucoup plus jeune, on voit bien que là, il y a quelque chose qui va être envoyé à cette femme, mais ça marche aussi chez les femmes par rapport aux hommes. Il y a quelque chose qui va être envoyé d'un coup de vieux, donc et d'une nécessité d'accepter ou pas, d'élaborer ou pas. Donc un processus qui consiste pour le sujet vieillissant, âgé, à intégrer ce à quoi le confronte le fait de vieillir quant à son désir. Je vais dire que le désir n'a rien à voir avec le fait de vieillir. Il a à voir avec le fait de se sentir vivant et animé et désirable et désirant. Donc au niveau du désir, au fond, je me rappelle d'une fois, j'étais monté dans l'ascenseur avec une femme de 90 ans, et justement, c'était une femme que j'aimais bien parce qu'elle lisait beaucoup, et à chaque fois que je venais dans sa chambre, elle me racontait ses lectures, et c'était une grande lectrice. Puis à un moment donné, j'avais monté un groupe de parole, tout ça, un groupe de mémoire, et monte dans l'ascenseur avec moi. Et elle m'exprime, mais en manière amusante, elle m'exprime une espèce de fantasme de traite de blanche. Et donc, elle avait un fantasme de traite de blanche, je veux dire, exotiquement, d'un point de vue exotique. Elle avait un fantasme parce que là, c'était un fantasme, c'est clair, qui n'avait rien à voir avec son âge. qui n'avait rien à voir au fond avec ce qu'elle vivait. Et par contre, ce fantasme était toujours vivant. D'ailleurs, je suis frappé, pour ceux qui côtoient des personnes âgées, qu'au fond, on peut échanger avec une femme âgée ou un homme âgé, bah, cette femme âgée, elle reste toujours, d'une certaine manière, la princesse qu'elle était pour son père ou pour un homme. Ce que je veux vous dire, c'est que le rapport au désir, il n'est pas soumis au temps. Il n'est pas soumis au temps qui passe. Et justement, sur le temps, il y a d'un côté le temps de Greenwich. Ben, voilà, il y a 24 heures, on vieillit, on fête nos anniversaires, etc. On sait bien que le temps passe. Mais si vous prêtez attention à certaines idées qui peuvent vous traverser l'esprit, vous serez surpris de voir que ces idées-là ne sont pas marquées par le temps, que vous n'avez pas renoncé à un certain type de désir. Et donc, l'autre élément, le fait de vieillir, ben, ça confronte à la finitude, c'est-à-dire à la question de la mort. La mort d'un proche, d'un parent, la mort d'un... Et donc, évidemment, la mort, même si la société a tendance à la gommer, la mort nous renvoie à une vie qui a une vie. Déjà, il ne faut pas oublier que la mort renvoie à la vie. C'est pour ça que c'est important. Moi, je trouve que les enfants assistent aux enterrements, parce que ça les renvoie à la vie, que ça permet peut-être de mieux s'approprier l'existence, de ne pas la vivre de manière imaginaire, mais de ne pas oublier qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il s'agit de s'en occuper de cette vie. Alors ce travail du vieillissement, il est conscient et inconscient, il débute lors de la crise du milieu de vie, lorsqu'apparaissent les premières défaillances et limites corporelles, le fantasme d'immortalité, ben, ce que je vous disais, on se conduit au quotidien comme si on était immortel, alors que ce n'est pas le cas. Alors, il s'agit d'une rude mise à l'épreuve spéculaire du narcissisme, je viens de vous l'illustrer. Et la qualité du narcissisme, c'est-à-dire la qualité de la manière dont je m'apprécie, la manière dont je m'estime, l'image que j'ai de moi, si j'ai une bonne image, etc., ça va aider à bien vieillir. Bon, je reviendrai sur le mot bien vieillir. Ça va aider à vieillir, en quelque sorte. Alors, le vieillissement remet en jeu la question de l'identité. Il y a tout un questionnement identitaire, toute l'existence, mais à partir de 70, 80, il y a vraiment une interrogation sur leur vie, de trouver un sens, de donner du sens à la vie de toutes nos nuits. D'ailleurs, à part le rêve ou les cauchemars, on a toute une activité qui consiste à faire que ce qu'on vit soit à peu près en cohérence avec ce qu'on a vécu, etc. On essaie toujours de maintenir une forme de continuité qu'on appelle nous-mêmes, quoi. Et donc, à cet âge-là, c'est vraiment une question où on revient sur des moments, pourquoi on a fait ce choix, pourquoi on n'a pas fait ce choix, etc. Et donc, tout un tas d'éléments qui sont au service de l'identité, et ce travail sur l'identité se fait par l'intermédiaire d'un travail du moi intense, d'interrogation sur moi-même, etc. Et aussi sur les identités sexuées. Par exemple, on voit quand même beaucoup de... un certain nombre, on va dire, à partir de la crise du milieu de vie, mais à la soixantaine, etc., on voit beaucoup, par exemple, d'hommes qui commencent à avoir des expériences homosexuelles, ou des femmes qui commencent à avoir des expériences homosexuelles. C'est-à-dire qu'il y a une réinterrogation du rapport à l'objet du désir. Pourquoi il y a cette réinterrogation? Peut-être parce que, comme c'est assez souvent le cas, j'ai pu recevoir soit des hommes ou des femmes, au fond, c'était marié par convention, on va dire, par pression familiale, par convention. Et au fond, à un moment donné, quelque chose d'une orientation et d'une attirance pour un autre type d'objet sexuel que celui plus classique, on va dire, peut émerger à l'occasion de crises. Donc, mais aussi la question des identités sexuées, elle est posée aussi dans la question du rapport à l'amour sexuel, à la sexualité. Parce qu'au fond, la sexualité passe par tout un tas de... Je ne vais pas développer, mais je peux répondre à des questions. Par tout un tas de difficultés rencontrées dans l'expression corporelle quant à la satisfaction et la jouissance. et qui parfois ou souvent nécessite de moduler la manière dont on fait l'amour. Encore faut-il accepter de moduler. Et donc ce vieillissement, il active de nombreux processus de deuil. On doit renoncer à des idéaux, on doit renoncer à tel rêvait depuis toujours qu'un jour il ferait ceci ou cela, puis au fond, bah, il doit y renoncer. Renoncer aussi de soi-même, de ce qu'on attendait de soi, enfin, il y aurait beaucoup à dire. Et oblige à faire avec la castration, c'est un terme psychanalytique qui est un peu inadéquat, on va dire, et que je préfère utiliser le terme de limite. On doit faire avec la limite que le corps, surtout le corps, nous confronte par des difficultés, des incapacités, des moindres capacités, etc. Alors j'ai une proposition. En fait, il est intéressant de vieillir dès lors qu'on accepte de vieillir. Ah, déjà, qu'est-ce que c'est le mot intéressant ? Intéressant, c'est qui suscite l'intérêt et l'attention, qui éveille la curiosité et l'attention de l'esprit. Donc la question, c'est en quoi le fait que je vieillisse peut susciter mon intérêt, mon attention, peut éveiller ma curiosité. On voit bien que déjà, c'est tout un rapport à soi-même et au fait qu'on avance en âge. Mais pour qu'il soit intéressant de vieillir, il faut accepter de vieillir. Et d'ailleurs, c'est pas simple d'accepter de vieillir, parce qu'au fond, une part de nous ne consent pas. Il n'y a pas de consentement à vieillir. On n'a pas le choix. Je veux dire, donc, chez tout le monde, mais de manière plus ou moins spectaculaire, ou parfois très peu spectaculaire, très symptomatique, chez tout le monde, il y a quand même un refus sur le fait de vieillir. Personne n'est content de vieillir. Jamais, si de temps en temps, ça s'entend, mais la personne qui va dire ça, elle a fait un travail, quoi, psychique. Oui. Parce qu'au départ, c'est un peu difficile. Donc, dans un premier temps, il y a un refus de vieillir, puis après, il y a différentes formes. Il y a un refus, une résignation, une amertume. Donc là, on va sur quelque chose d'un vieillissement qui ne va pas être... agréable, on va dire, puisque tout va renvoyer le fait que, au fond, cette position, tout renvoie sur le fait que j'ai perdu quelque chose et ce que j'ai perdu, c'est définitif. Là, c'est une perte définitive. Donc, manifestement, la personne n'a pas l'air de pouvoir rebondir. Donc, c'est compliqué. Et il y a un certain nombre de vieilles personnes qui ont une forme de ressentiment sur les jeunes, etc., mais parce que ça leur est insupportable, le fait que les autres incarnent quelque chose qu'ils ont perdu. Autrement, il y a un refus, et puis ensuite un déni. Alors, par exemple, la médecine anti-âge, la chirurgie plastique, elle est excellente pour ça, et à la limite, je veux dire, moi, comme je considère que chacun fait comme il peut avec son existence, pourquoi pas, je veux dire. Et donc, la technologie et la médecine actuelle permet de soutenir ce déni. Je vieillis pas, j'ai pas besoin de développer, mais vous voyez bien, ça me permet de maintenir cette illusion que je suis pas encore vieux, mais que je suis encore jeune. En fait, l'idée, c'est de rester encore jeune, quoi. Et puis, l'autre temps, quand même, qui je trouve intéressant de venir... Il y a un refus, là aussi, et puis ensuite une modalité d'acceptation. C'est-à-dire qu'on va accepter de vieillir. Et parce qu'on accepte de vieillir, on va donc changer le rapport qu'on a à soi-même, à son corps et aux autres, et on va pouvoir, à ce moment-là, s'ouvrir à des choses qui, auparavant, ne paraissaient pas du tout excitantes. Si on accepte de vieillir, à ce moment-là, on découvre des choses qu'on n'a pas le temps de découvrir parce que ça va beaucoup plus vite quand on est jeune, quoi. Bon, je ne reviens pas sur la crise du milieu de vie, je vous en ai déjà parlé. Donc, alors, si on accepte de vieillir, à ce moment-là, vieillir, ça peut être une découverte. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser sur son histoire, on va essayer de lui trouver un sens. Donc il y a tout un travail, qui n'empêche pas qu'on est dans le présent, mais tout un travail de remaniement, parce qu'on a besoin d'avoir une cohérence. Une des questions quand même qui vient quand on vieillit, c'est est-ce que ma vie valait le coup d'être vécue ? C'est une question fondamentale. Si on a le sentiment qu'on a vécu une vie qui valait le coup d'être vécue, et grosso modo avec des satisfactions, et des... à ce moment-là, c'est plus facile d'accepter de vieillir et même de mourir. Si par contre, on a le sentiment qu'on est passé à côté de son existence, alors à ce moment-là, on va dire, se confronter à soi-même devient extrêmement douloureux. Je me souviens de quelqu'un qui ne pouvait pas dépasser un choix amoureux. Il avait fait le mauvais choix amoureux, selon lui. 50 ans plus tard, hein, il en était toujours là. Donc, vous voyez bien que c'est compliqué de profiter de sa vie vieillissante si on a ce sentiment qu'on est passé à côté de quelque chose. Donc il y a tout un travail de la mémoire, il y a un travail de la nostalgie. Donc la nostalgie, bah, très brièvement, oui, c'est 11h45, 11h30. Oui, d'accord. Donc la nostalgie, c'est à la fois un sentiment doux amer, à la fois c'est plaisant de se souvenir des bonnes choses, et en même temps, il y a une petite douleur parce qu'elles ne sont plus. Et à l'origine, la nostalgie, c'est un médecin suisse qui est en Chine, et puis il se rend compte qu'il est déprimé, et il se dit, et il se rend compte que c'est le mal du pays. Or, le mot nostalgie veut dire mal du pays, en fait. Donc à l'origine de la nostalgie, c'est un mal du pays. Et là, le pays dont il s'agit, c'est le pays de l'enfance, ou c'est le pays d'une séquence de vie qui était particulièrement agréable, et donc on a le mal de ce pays. Donc quand on vieillit et qu'on s'intéresse, on voit qu'on a tous les âges en soi, c'est qu'à certains moments on peut être un vrai gamin, à d'autres moments on peut être une ado, et à d'autres moments on va être à nouveau un père de famille, etc. On a tous les âges en soi, c'est la seule séquence de vie où on a tous les âges en soi, puisque les autres, par définition, ils n'en ont qu'une partie. Alors, le rapport à la mort. Donc il y a beaucoup d'angoisse de mort, mais en fait, qu'est-ce qui angoisse les gens? C'est l'idée de la mort. Parce que la mort réelle, au fond, elle est, sauf de temps en temps quand on est confronté au réel de la mort, et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose, c'est un événement. Même si vous êtes confronté à la mort de quelqu'un qui vous a inconnu, si vous lui accordez un peu de temps à ce... quelques secondes, une minute, c'est un événement. Quel est l'événement? Parce que vous avez affaire à un corps qui n'est plus animé. C'est ça qui est difficile dans la mort, c'est que le corps n'est plus animé. Alors que la vie, le corps est animé par le souffle, par toute la production des organes, etc. Mais le plus souvent, les gens, ils n'ont pas peur par rapport à la mort réelle, ils ont peur par rapport à une idée de la mort. Et cette idée de la mort, elle est souvent associée à la vieillesse. Voilà aussi pourquoi on a ce mouvement un peu de mise à distance des vieux, puisque au fond, les vieux, par métonymie, en quelque sorte, ils impliquent la mort qui est derrière. Après, il y a la question de la solitude. Alors, soit cette solitude est un isolement et c'est un vrai problème de société, et d'ailleurs, peut-être ça serait intéressant d'en discuter avec vous, puisque au fond, je pense que les médiathèques ou les bibliothèques, elles peuvent avoir affaire avec la question de l'isolement. On discutait juste avant la matinée sur un processus qui s'appelle « aller vers », c'est-à-dire, c'est comme la guerre d'air. Hein. La guerre d'air disait « si tu ne viens pas à moi, grosso modo, j'irai à toi », quelque chose comme ça. C'est peut-être la question aussi qui vous est posée. Avec l'idée du public empêché, tout ça, etc., c'est s'ils ne viennent pas à vous, qu'est-ce que vous faites déjà mentalement pour créer les conditions pour qu'ils viennent, ou qu'est-ce que vous faites parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. C'est, à mon avis, un des aspects de la journée. Voilà, Alors, d'un point de vue social et sociétal, au fond, le vieillissement, c'est une question majeure et un rapport compliqué et paradoxal. Pourquoi un paradoxe ? Parce qu'en fait, c'est la première fois dans l'humanité qu'on a on a une telle perspective de vie, qu'on a la chance de vivre longtemps. On va quand même considérer que c'est quand même une chance de vivre plus longtemps que jadis. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'on refuse de vieillir. C'est quand même curieux, ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut vivre et vieillir longtemps, et on refuse, et probablement qu'il y a un rapport, mais j'aime bien garder le paradoxe quand même. Et c'est à ce moment-là que nous refusons de vieillir. Bon, ben, une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup de représentations négatives. Hein. La vieillesse, elle est quoi vécue comme le naufrage, le fameux naufrage dont nous parle Charles de Gaulle. Enfin, quand il parle de vieillesse comme le naufrage, c'est quand même une vieillesse, c'est pas parce qu'il est vieux, c'est parce qu'il y a une perte de capacité, notamment cognitive. Hein. En fait, cette phrase-là, elle est sortie d'un contexte. Il parle de quelqu'un qui avait, à ce moment-là, on ne disait pas maladie d'Alzheimer, mais qui devait avoir des troubles plus ou moins démentiels. Alors, je ne sais pas si c'est vieillir qui est un naufrage, ou la démence, qui est une maladie, en quelque sorte. Le vieillissement, la vieillesse, ce n'est pas une maladie. Donc, elle est vécue comme un déclin aussi. Et d'ailleurs, entre parenthèses, sur les mots, le mot mature a complètement disparu. La maturité n'est plus un mot qui était valorisé, alors que jadis, franchement, être mature, c'était à l'apogée quasiment d'une existence. Bah, parce que quand vous regardez les fruits, par exemple, quand ils sont matures, après, ils vont décliner. Ils vont se flétrir. Donc, le mot mature, on ne l'aime pas. Donc, on le fait disparaître. Mais moi, j'aime bien ce terme-là parce qu'il dit il dit quelque chose. La catastrophe, la dégradation, la déchéance. Voilà, représentation négative. Une société qui n'aime pas sa vieillesse. Bon, voilà, je reprends sur l'histoire de l'image, mais bon, c'est pas besoin de développer sur le fait qu'on est une société de l'image, quoi, je veux dire. Et d'ailleurs, peut-être. Alors, bon, la bibliothèque, c'est les livres, la médiathèque, c'est il y a l'écrit, il y a l'image, etc. C'est sûr qu'il y a un rapport à l'écrit. Il est problématique en même temps, il n'est pas sans perspective de roman. Mais on peut discuter de ça. Donc, une jeunesse qui a un modèle iconique. Voilà, c'est les valeurs qui prédominent pour le moment, c'est la rapidité, la capacité de la vitesse, quoi, l'éphémère, la capacité de passer d'un truc à l'autre, de zapper, de surfer sur le web, etc. Enfin, tout ça, c'est d'ailleurs, à tel point que les smartphones sont conçus là-dessus. Ce qu'on appelle le mode intuitif, c'est qu'il n'y a pas à maîtriser l'objet d'une certaine manière, puisqu'il a été conçu pour que ça nous vienne comme naturellement, comme en jouant. Comme les enfants, quoi, je veux dire, vous voyez, ça nous présentait que, en fait, le smartphone, c'est quand même un jeu. C'est un jeu magnifique, d'ailleurs, mais il est notamment Apple, il nous est présenté, puis les autres ont suivi, il nous est présenté comme un jeu, c'est-à-dire, il n'y a pas d'effort, d'ailleurs, hein, il n'est pas demandé forcément un effort pour pouvoir accéder à un smartphone, comme quand on joue, quoi, je veux dire. Alors, donc, il ne faut surtout pas vieillir, là, la représentation sociétale, ou alors il faut vieillir sans vieillir, donc pourquoi pas la médecine anti-âge, ou bien vieillir en restant jeune, voilà, on est dans des espèces de paradoxes comme ça. Et au point que, au fond, dans nos sociétés de l'individu, on n'est pas qu'une société de l'image, on est une société de l'individu, et l'individu, il est convié à réussir tous les... puisque chaque... Le souverain bien de notre société, c'est l'autonomie de l'individu. On doit être autonome et s'épanouir dans tous nos domaines, en tant que mari, en tant qu'amant, et même chose pour les femmes, en tant que père, en tant que fils, en tant que professionnel, on doit être bon partout. Il y a quand même une dimension de la compétence. Burn-out, par exemple, ben voilà, c'est parce qu'on n'a pas su s'adapter. Non, moi je dis le burn-out, le plus souvent, c'est qu'il y a un dysfonctionnement institutionnel qui produit chez certains gens, certaines personnes, certains salariés, une souffrance. Mais donc, pour revenir à société de l'individu, donc, il est maintenant requis, en quelque sorte, qu'il faut réussir son vieillissement. C'est-à-dire, il ne faut pas accepter de vieillir. Je dirais, ce qui a changé comme, euh, comme prototype, on va dire, c'est il faut réussir son vieillissement, c'est-à-dire rester toujours jeune. Quoi. Donc, dans la société, la vieillesse est présentée comme un problème économique. Une société qui oppose ses jeunes et ses vieux, une guerre des générations. En même temps, il y a quand même un conflit de générations, et qui est d'ailleurs intéressant. D'ailleurs, pour ma part, je considère que il est naturel, il est logique que chaque génération ait envie de se déprendre de la génération des parents ou des grands-parents, et que donc, à un moment donné, cette nouvelle génération rentre en conflit avec ses parents. C'est pas pour le plaisir d'être en conflit, c'est juste parce que les temps ont changé, la société a changé, et qu'il est tout, et puis parce que je ne suis plus un enfant, je ne suis plus un ado, je deviens un adulte, etc. Et donc c'est un peu normal de réinterroger, de questionner, de critiquer. La critique en soi, elle n'est pas du tout inintéressante, dès lors qu'elle produit quelque chose d'une ouverture et d'un changement. La société est présentée comme une maladie, voilà, il y a une médicalisation de la vieillesse qui envahit la gériatrie, la gérontologie. À l'origine, la gérontologie est conçue justement pour avoir une approche non médicalisée, plus sociale en fait. C'est dans la collection qu'on dirige, c'est quand même, on considère souvent que la société, elle peut aussi aider à mieux vieillir, que la réponse, elle n'est pas uniquement médicalisée. Il y a une trop grande médicalisation de la vieillesse et de la mort. Il y a une trop grande psychologisation de la vieillesse et de la mort. Je pense que les gens, socialement, ils peuvent résoudre des choses. Ils n'ont pas forcément besoin d'aller consulter. Elle est vue aussi, cette vieillesse, comme une faute. Donc, ça, on l'entend hein, quand même chez des gens âgés. On devient une charge, on coûte de l'argent. Et donc, il y a toute une culpabilité de peser sur les autres, sur les enfants, les petits-enfants, vous comprenez, etc. etc. et qui fait qu'il y a un sentiment de culpabilité qui apparaît dans un certain nombre de situations. Donc les seniors, ben, c'est pas la même chose s'ils sont actifs ou passifs, en travail ou en retraite, les rôles et les fonctions. Alors imaginons qu'ils sont en retraite, donc ils sont pas rentables, et je dis et c'est sûr, par exemple vous allez dans un tas de villages en province, s'il n'y a pas les seniors, on va dire, et des gens plus âgés qui vont s'occuper de la voiture, de la plomberie, etc., ben, il y a tous les artisans, tous les petits commerces qui ferment. Donc ce que je veux dire, c'est que même d'un point de vue économique, il n'est pas si sûr qu'il ne soit pas rentable. Et donc l'effet fonction, on va dire, sociétale des seniors, donc économique, je viens de dire, associative, bon, on l'a vu, citoyenne, ben, c'est quand même ceux qui votent le plus. Et aussi une fonction de transmission qui est très importante, savoir-faire, savoir-être. Là, je fais référence à Amartya Sen, qui est un prix Nobel d'économie. Si vous voulez rebondir là-dessus, je rebondirai, mais je passe à autre chose. Alors, au fond, une personne âgée, un senior, une vieille personne, c'est aussi un modèle de la moindre maîtrise. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait François Dolto qui racontait je ne sais plus quelle était cette histoire. Enfin, grosso modo, il y avait une grand-mère qui avait un cancer et qui allait en mourir quelques mois plus tard, qui était en train d'écosser des petits pois avec sa petite fille. Une scène tout à fait banale. Mais cette petite fille, ensuite, s'est souvenue de ça. C'est-à-dire qu'au fond, sa grand-mère, qui était. Et la mort rôdait, et ben ça n'empêchait pas qu'elle était tranquille dans la discussion. Donc là, qu'est-ce qu'il y a comme transmission ? Ben, c'est pas parce que la mort approche que pour autant on n'est pas dans la vie et que c'est si effrayant que ça. Cette petite fille qui ensuite est devenue une femme, voilà, elle avait appris quelque chose d'une génération précédente, d'un rapport à la mort. Et ça, les générations, et notamment les gens âgés, transmettent des choses quand les générations qui suivent veulent bien les écouter. Donc, un modèle de la moindre maîtrise, un lien entre les générations. Ben, une fonction d'enracinement, il y a toute la généalogie, etc. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à la généalogie au moment de la retraite. Mais bon, c'est à la fois un intérêt personnel, mais c'est toute la famille qui va en profiter et donc va se réinscrire, va s'enraciner dans une terre, un terroir ou je ne sais quoi. D'inscription dans l'histoire, de transmission, d'introduction au sacré. Ça, c'est le psaume 71. Je suis une question pour beaucoup de vieillards. Pour l'enfant, pour l'adolescent, pour l'adulte, il est une question fondamentale sur leur vie, sur la vie et leur vie à venir, etc. Après, la question, elle est ouverte. Alors, un petit mot sur le marketing. Voilà, ça j'avais trouvé ça absolument fabuleux. Donc, c'est une pub. Je crois que c'est pour un shampoing. Mais elle est vraiment... donc, ce sont des seigneurs et ils sont heureux. Moi, je trouve qu'ils font un peu peur. Mais parce qu'ils ont une espèce de... Voilà l'image qui est renvoyée par la pub pour montrer qu'on peut être vieux, mais malgré tout, on est quand même jeune. Par exemple, sur les cheveux gris, puisque c'est une caractéristique des vieux. Entre parenthèses, j'ai les cheveux gris depuis l'âge de 20 ans, donc ça fait longtemps que je suis vieux. Sur les cheveux gris, en fait, c'est pas n'importe quel gris. On s'est rendu compte qu'il y avait un gris particulier pour les publicitaires. C'est un gris un peu argenté. Là, si vous voulez, il y a à la fois l'indice de la vieillesse, mais il y a aussi un indice de jeunesse. Et c'est tout le travail du marketing est fait là-dessus. Indice de vieillesse mélangé à un indice de jeunesse. Donc, je ne vais pas développer, mais disons que le marketing et la silver economy s'est rendu compte qu'entre 55 et 100 ans, comme je l'ai dit, il y avait quand même un problème pour avoir un marché et une cible bien ciblée, quoi, on va dire. Donc, il a commencé à diviser la population selon les âges et surtout selon les générations. Donc, ils ont énormément embauché d'anthropologues et d'historiens. Parce que c'est les historiens, au fond, qui ont inventé la conception des générations. Et donc, ils ont décrypté des choses. Et actuellement, le silver marketing, c'est une segmentation de trois générations. La génération du collectif, plus de 75 ans aujourd'hui, donc je vous laisse lire, mais il y a un certain nombre de caractéristiques du rapport à soi-même et au groupe. La génération individualiste entre 65 et 75 ans. Ben voilà, il y a les 30 glorieuses et il y a un certain type de rapport au confort et au mode de consommation. La génération consumériste entre 55 et 65 ans. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai publié il y a 5-10 ans, donc il faudrait être décalé. La consommation en mode de vie. Et je pense que les 55-65 ans dans le... Il y aura une génération des 55-65 ans dans 5-10 ans où la question de l'environnement deviendra fondamentale, alors qu'elle n'est pas du tout envisagée pour les générations précédentes. Et là, cette question de l'environnement sera un élément marqueur, et ce sera un marqueur d'identification, d'appartenance. Et après, la cyber-économie, elle choisit sa communication pour aller vendre les produits en fonction des environnements culturels des générations. Donc là, il y a toute une catégorie, et donc je passe, hein, je n'ai pas le temps. Et dans la collection, on a publié un livre qui s'appelle « La tyrannie de bien vieillir », un philosophe Didier Marx, un sociologue Michel Billet. Et grosso modo, leur thèse, qui est tout à fait intéressante, c'est que ça devient quasiment une tyrannie, c'est-à-dire une injonction à bien vieillir. On nous renvoie, si vous lisez... quel que soit ce que vous lisez, que ce soit en numérique ou en papier, on nous renvoie en permanence cette dimension de bien vieillir. Alors, les pratiques culturelles. Alors, d'abord, la presse senior, c'est une presse qui marche du feu de Dieu. Je veux dire, il y a soit des titres qui sont spécialisés en direction des seniors, après il y a les catégories, je vais pas rentrer dedans, il y a deux grands magazines, c'est Notre Temps et Pleine Vie. Mais il y a aussi des publications, on va dire, généralistes qui ont aussi, une fois par semaine, quelque chose qui est adressé au Seigneur. Alors, au fond, maintenant, je vais un peu aborder la question des pratiques des Seigneurs et la culture. Alors, c'est pas la même chose, et je verrai ça un peu plus tard, ces pratiques avant, pendant et après le Covid. Parce que le Covid a quand même modifié quelque chose dans les pratiques culturelles. Alors d'abord, je rappelle en introduction que la culture est un droit. Ensuite, pour moi, je veux dire, la question du rapport à la culture, se pense aussi dans un territoire, dans ce qu'on appellerait un écosystème, même si l'ouverture c'est sur le monde, c'est aussi l'ouverture sur un espace quand même, un terroir, etc. Et donc, et d'ailleurs j'utilise même l'expression un circuit court culturel. Comme il y a le circuit court alimentaire, qu'est-ce que c'est le circuit court culturel? C'est, ici on est où? On est à Caen. Donc c'est quoi le journal ici? Mettons Ouest-France. Donc, dans Ouest-France, j'ai tout un environnement, j'ai tout un tas d'informations qui me renvoient à la vie que j'ai menée, si ça fait un certain temps que je mène la vie ici, et au fait que j'appartiens à ce territoire. Et j'ai toute une ouverture, on va dire, culturelle sur ce territoire, sur les pratiques, les manifestations, etc. Alors, on va voir ça après. Les aidants familiaux, j'aimerais qu'on trouve un... Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en direction des aidants familiaux. C'est-à-dire des gens qui ploient sous le fardeau, on va dire, d'un accompagnement. Et ce n'est pas simplement qu'aidant familial de vieux. Hein. Ça peut être on peut avoir un enfant autiste, on peut avoir... l'aidant familial n'est pas limité à la question du vieillissement. Ça peut être la question de la maladie, ça peut être, ça peut être des enfants handicapés, des enfants autistes, etc. Pour moi, les médiathèques et les bibliothèques sont des possibilités de vacances. Qu'est-ce que j'appelle vacances? Une rupture dans mon quotidien pénible. Voilà. Selon moi, vous êtes un établissement de vacances, c'est-à-dire où on peut se relâcher et penser à autre chose. Parce qu'il y a un tas de gens qui pensent, qui sont persécutés par leur pensée, par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre, professionnellement, mais aussi les aidants familiaux, etc. Et au fond, ce dont ils ont besoin, je ne sais pas si c'est de partir ou pas, mais ils ont besoin d'une coupure, d'une vacance, au fond, d'un relâchement. Alors, on parlera aussi des publics empêchés. Alors, les pratiques culturelles actuelles. Je vous laisse lire, mais je lis l'intro à chaque fois. Les 60 ans et plus lisent plus que d'autres groupes d'âge. Oui, c'est clair que les seniors lisent beaucoup de papier, par exemple, beaucoup de magazines. Et il y a quand même beaucoup qui ont un abonnement, voire deux abonnements, parfois plus, je veux dire. Donc, plus ils lisent... plus que la moyenne. Moi, je pense que les ados, ils lisent beaucoup, mais simplement, ils lisent tout un tas de choses lorsqu'ils sont en train de jouer aux jeux vidéo, etc. Il y a tout un tas d'informations, etc. Donc, c'est peut-être la nature de la lecture qui change. Alors, un changement très net, c'est cependant produit ces 30 dernières années, qui va au-delà de la bibliothèque, c'est qu'elles sont devenues beaucoup plus actives culturellement. C'est-à-dire, elles vont au spectacle, elles vont au cinéma, ce qui n'était pas le cas des générations avant, qui n'allaient pas aller au cinéma, ou à partir d'un certain âge, on n'allait pas tellement au cinéma, ou au théâtre. La retraite est devenue quand même un moment d'élargissement des activités, lequel se traduit aussi sur le plan culturel. En termes de pratiques culturelles, il y a la question de la télévision est quelque chose de très important. Puis je ne parle même pas après les plateformes de streaming, etc. Donc, parce qu'on a plus de temps et qu'on se replie sur le domestique TV et radio, et on reviendra sur la question du repli, du retrait, cette fois-ci pendant le Covid. Alors pourquoi on lit plus de journaux? Parce qu'on a l'habitude, parce que ce sont des générations qui ont grandi avec un journal, et que c'est une pratique. Est-ce que c'est une pratique culturelle? Oui, mais c'est peut-être aussi une pratique sociale. C'est une manière d'être, une manière de vivre une journée, c'est de comprendre aussi le fait que les journaux, puis il faut dire aussi que jadis le journal était quand même un accès, on va dire, au monde. Alors que maintenant, l'accès au monde, il est beaucoup plus diversifié avec les écrans et Internet. Alors, dans l'accueil des seniors, c'est un point qui peut être intéressant par les bibliothèques. Je ne sais pas, quand vous accueillez quelqu'un, Est-ce que ça change, enfin, quand vous accueillez quelqu'un, est-ce que la question de son âge, est-ce que la question de son âge est importante? Est importante. Ben, je lance la question, on verra bien comment vous, si vous avez envie de rebondir. Il y a pas mal à dire, je pense. Donc, ce qui est clair, c'est que la presse numérique, l'écran, c'est quelque chose qui se développe énormément. Il y a plein de seniors, comme des ados, dès qu'ils se réveillent, avant même le petit déjeuner, ils ouvrent le smartphone, ils regardent les réseaux sociaux, etc. C'est pas propre aux ados, hein, je veux dire. Alors, pour s'informer, mais aussi, moi je trouve qu'il y a plein de gens qui ont 60, je sais pas, c'est compliqué de mettre des âges, ils ont un rapport, on va dire, avec l'écran et avec le numérique qui est proche parfois même du même niveau que des ados. Donc voilà, une pratique en forte hausse numérique, et ce qu'on observe, c'est une désaffection pour la presse papier. Alors le confinement a joué un rôle aussi. La question, c'est que restons un peu là-dessus. Parce que donc durant les deux années Covid, le confinement, les deux confinements, on va dire, au fond, on s'est organisé, on est resté chez soi, etc. D'ailleurs, c'était un formidable révélateur, le Covid. Mais après, la question qui se pose, c'est que ces gens qui se sont organisés sur le mode du repli, du retrait, est-ce qu'ils vont revenir ? On voit par exemple pour le cinéma, les gens ne reviennent pas comme avant. Donc est-ce que ça va être simple de revenir ? Je ne sais pas. Et là aussi, à la fois c'est une question qui vous concerne et à la fois c'est une question pour laquelle vous aurez des choses à proposer ou à inventer. Donc la culture, un droit, ben oui. Je laisse lire. L'étymologie, c'est intéressant puisque bon, bah, la culture, c'est habiter ou cultiver. Bah, habiter un lieu, bah, c'est l'écho, ce que je vous disais, l'écosystème. C'est-à-dire habiter un lieu, c'est des nouvelles du patelin d'à côté ou de la ville dont n'est pas mon EHPAD, etc. Et l'action de cultiver, bah, c'est tout ce qu'on appelle la stimulation cognitive, au fond. Sauf que stimulation cognitive, ça fait vraiment médical, alors que lire son journal, ben, la stimulation cognitive, elle est là, mais il n'y a pas besoin de mettre le mot stimulation cognitive. Alors, donc la culture comme ouverture, hein, bon, c'est des choses que j'ai déjà dites. Bon, tout ça, vous le savez, d'une certaine manière. Alors, peut-être cette dimension. La conception écosystémique, telle que je implique des acteurs pensant leur action et non la reproduisant simplement. Après, il y a cette idée de l'action culturelle, qui est, je ne sais pas si vous l'utilisez d'ailleurs dans votre pratique, mais pendant il y a quelques dizaines d'années, l'action culturelle, c'était une politique, on va dire. Et en fait, le terme action culturelle, je le trouve vraiment intéressant. Particulièrement en direction du public empêché, parce qu'au fond, il nécessite pas simplement d'accueillir, mais d'aller vers, c'est-à-dire d'agir, de faire le constat, vous nous l'avez dit en introduction, de constat qu'au fond, il y a la moitié des gens qui ne viennent pas. Bon, une fois qu'on fait le constat, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est là qu'il y a un travail d'élaboration, et après, c'est là que le mot « action culturelle » devient intéressant comme possibilité de projet, quoi. Alors, et en plus, je dis que l'action culturelle est comme un soin, en fait, un soin psychique, par exemple. Il est intelligent quand il est intelligible. Alors, peut-être c'est simpliste ce que je dis, mais je vais quand même essayer de l'expliquer comme si c'était pas simpliste. Qu'est-ce que ça veut dire intelligible ? Ça veut dire que l'autre... Ça veut dire que je vais présenter les choses d'une manière telle que l'autre va pouvoir les comprendre. L'intelligence, c'est la manière dont je saisis, dont je comprends la situation ou le monde, quelles que soient les modalités de compréhension, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient affectives, etc., parce qu'il y a différents registres d'intelligence. Voilà, c'est la manière dont je... Or, quand on veut présenter quelque chose, un projet par exemple, la façon dont on le présente le rend accessible et donc susceptible de provoquer quelque chose d'intelligent d'un point de vue culturel. Ça veut dire le souci, je ne vais pas insister, mais c'est vrai que ça veut dire le souci d'être appréhendé par l'autre d'une manière adéquate. Toute la question des publics empêchés, là, va être centrale. Qu'est-ce qui les empêche, etc. Et comment je peux moduler, on va dire, ma proposition de projet, par exemple, pour que l'autre puisse s'en saisir. Moi, je trouve que c'est une question de fond. Comment je fais pour que l'autre puisse se saisir de quelque chose que je propose? Et c'est pas si simple que ça, en fait. Un EHPAD est un élément d'un territoire. Voilà comment je vois un EHPAD, une commune ou un quartier, qui n'a de cohérence et de sens que dans une perspective. Sinon, c'est une structure hors sol où l'accès à la culture proposée sera confus. Je vais le reformuler pour que ça soit clair. Je veux dire, un EHPAD est un élément d'un territoire. Pour moi, un EHPAD... Et tout comme l'église, tout comme je sais pas, le McDo, s'il y a un McDo, tout comme est un élément du territoire. Il y a quand même beaucoup d'EHPAD qui sont comme entre parenthèses, qui sont comme en huis clos, qui sont un peu inaccessibles, qui sont des éléments de territoire, mais cachés, on va dire. Et donc, ces EHPAD, je les appelle des structures hors sol. Au fond, les gens, les résidents qui sont là, ils sont coupés de tout, ils sont loin de la ville ou du village ou du quartier, etc. Or, je dis dans d'autres situations qu'au fond, un EHPAD, c'est un tiers-lieu. C'est-à-dire, c'est un lieu où il y a des gens qui restent là à demeure, on va dire, c'est leur demeure d'ailleurs. Et puis, ça peut être aussi un lieu, puisqu'il y a beaucoup de salles en général dans les EHPAD qui ne sont pas utilisées hormis la journée, mais c'est un lieu qui peut être utilisé par des gens qui viennent. Je vous donnerai quelques exemples de ce que c'est qu'un tiers-lieu, de ce que c'est de concevoir un EHPAD comme un tiers-lieu. C'est-à-dire où il y a du va-et-vient, où il n'y a pas que une référence de soins ou médical, où le médico-social de l'EHPAD, je trouve qu'il n'est pas tellement social. Les EHPAD sont des établissements médico-sociaux, souvent, je dirais qu'ils sont médicaux, je veux dire, ou médico-stimulation, je ne sais pas, mais... Le social manque dans les EHPAD et la culture est un élément majeur du social. Et à ce moment-là, l'EHPAD peut être une chance pour le territoire en question. Une chance, pour moi, une chance, je me réfère à l'étymologie du mot chance, c'est-à-dire une rencontre, ni bonne ou mauvaise. À l'origine, le mot malchance n'existe pas, il n'existe qu'un seul mot, c'est chance. Et qui traduit la rencontre, mais tragique, dans le sens où elle peut être bénéfique pour moi ou maléfique, en quelque sorte. C'est qu'après que le mot malchance est apparu, que le mot chance est devenu positif. Voilà. Donc, l'EHPAD peut devenir une possibilité de rencontre. Alors, au fond, moi, comment je vois la bibliothèque d'abord, je la vois comme une source de récit. Et comme je le montrais tout à l'heure, au fond, Homo sapiens, on est une espèce animale, mais on a besoin de récits. En permanence, on a besoin... Alors, les récits, c'est les idéologies, c'est les religions, c'est la culture, c'est... Parce qu'on est des êtres de parole et qu'on s'inscrit, et que ça donne sens, et que... On se construit, on se développe dans des récits. Un certain nombre de gens, quand ils deviennent au grand âge et de la dépendance, il y a une difficulté, pour des raisons cognitives, de récits. Soit qu'ils n'arrivent plus à vraiment à parler ou à penser, que l'appareil à penser est abîmé. Et donc, que leur environnement propose des récits ou rappelle des récits sur ce que c'est qu'un récit, c'est vous rappeler... l'église untel, ou vous rappelez, je ne sais pas moi, le débarquement sur la plage untel, etc. C'est, il s'est passé des choses, mais ces choses-là produisent des récits. Et les gens à qui on s'adresse, ils sont... et ces récits-là les tiennent, et d'autant plus qu'ils ont des carences cognitives. Donc la bibliothèque, je la considère aussi comme un tiers-lieu, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Un tiers-lieu, par exemple, c'est que vous pouvez animer des ateliers, enfin vous le faites probablement, ou peut-être, j'en sais rien, d'écriture. Donc des gens viennent, des intervenants qui ne sont pas forcément... Il y a peut-être des gens de la bibliothèque, mais vous faites intervenir des gens de l'extérieur, et il y a des gens qui vont venir écrire, ou je ne sais pas quoi, enfin il y a tout un tas de possibilités. Elle devient à ce moment-là un tiers-lieu, un lieu où ça circule. Et elle est, selon moi, une possibilité pour les soignants, parce que les soignants en gériatrie, quand même, c'est difficile, quoi, je veux dire. Ils ont besoin de s'évader, ils ont besoin de penser. Et pour les aidants familiaux, ben, ils ont besoin de s'évader, ils ont besoin de penser. Idem. Et est-ce que les médiathèques, les bibliothèques, et comment peuvent aller vers ces soignants ou ces aidants familiaux donc la vieillesse empêchée, ben je ne vais peut-être pas trop m'attarder parce que je voudrais qu'on puisse échanger. Donc le public empêché, ben moi j'aime bien le terme, on en discutait avec sur le mot empêché. Je ne dis pas que le terme en soi n'est pas emballant, mais simplement, qu'est-ce que c'est qu'étymologiquement le fait d'être empêché? C'est d'être pris au piège, d'être entravé. Ben, c'est pas, si je reste sur le domaine, c'est pas le seul public empêché, mais si je reste sur le domaine des gens qui sont vieux, on va dire, plus ou moins dépendants, plus ou moins atteints de problèmes cognitifs, ben, oui, ils sont un peu pris au piège de leur corps qui n'est plus mobile, ou de leur appareil à penser qui n'est plus, qui n'arrive plus à se libérer, etc. Donc, en fait... ce public empêché, c'est donc quelqu'un qui est dans l'impossibilité d'agir, qui est retenu et qui est sans, le fait d'être empêché, ça nous empêche d'être présent. Et je reviens sur cette idée d'aller vers. Donc ça va nécessiter que des interlocuteurs, vous ou d'autres d'ailleurs, aillent vers. Et ce que je disais aussi avant la conférence, c'est que aller vers, quel est le mot qui s'origine de ça? C'est le mot agressivité. L'agressivité, c'est aller vers. Le bébé qui veut découvrir la cuisine, les portes, tout ça, il va vers. Il tape sur les portes pour voir si c'est doux, si c'est dur, etc. Un être vivant, un être humain qui n'a pas d'agressivité, que j'appelle vitalité, hein. Je distingue agressivité et violence, strictement rien à voir. Donc il y a dans cette forme d'agressivité, c'est-à-dire de vitalité, un mouvement d'aller vers, ben, c'est un signe de bon fonctionnement, on va dire, d'une institution qui va vers, ben, les EHPAD, les professionnels, d'aller vers des gens qui sont empêchés de parler ou de penser. Comment on y va? Alors, bon, l'importance du récit, voilà, donc c'est important. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, je passe là-dessus et je vais juste dire un mot d'Alzheimer, en fait. Alors, on dit maladie d'Alzheimer, plus précisément, il faut dire maladie d'Alzheimer et apparentée, parce qu'au fond, on classe dans la maladie d'Alzheimer tout un tas de maladies produisant des déficits cognitifs, mais ce n'est pas toujours la même causalité, etc. Mais gardons cette appellation à la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire des troubles de la mémoire, des troubles de la cognition, des troubles de l'attention, etc. Et qui souvent traduit ce qu'on appelait jadis un syndrome démentiel, une démence. Alors, Il y a une manière de... Parce qu'une fois qu'il y a ça, je veux dire, avoir ce mot-là, mettre ce mot-là sur la personne qui est en face, honnêtement, c'est un obstacle à la relation. C'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui met de la distance, etc. Donc, je trouve que c'est plus intéressant, en tout cas, moi, c'est comme ça que je pense, de penser que la personne dite Alzheimer ayant un Alzheimer, on dit c'est plus intéressant de la penser comme quelqu'un qui est perdu. Et en effet, si vous prêtez attention aux symptômes, etc., ce sont des gens qui sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils ont perdu, perdu des capacités de pouvoir se situer, de pouvoir penser les choses, etc. Donc, littéralement, ils sont perdus. D'un point de vue phénoménologique, c'est intéressant parce que s'ils sont perdus, ils sont soit trouvables, soit retrouvables. C'est là où ma métaphore, elle est intéressante. Dès lors que vous allez vers, là, pour le coup, je n'arrête pas de vous sortir cette dimension, mais dès lors que vous allez vers, alors vers quoi? Parce qu'au fond, c'est compliqué de communiquer avec des gens qui ont un Alzheimer plus ou moins évalué. Dès lors que vous allez vers l'intelligence affective, c'est-à-dire vers les émotions, parce qu'au fond, Alzheimer, tout le secteur cognitif se dégrade plus ou moins rapidement, on va dire, mais par contre, il y a quelque chose qui dure longtemps, c'est les affects, c'est les émotions, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et donc, si la relation, elle est sûre, comme au fond, on a une relation avec un bébé. Et quand je dis une relation comme un bébé, je ne dis pas que ce sont des gens qui sont au niveau d'un bébé. Je ne suis pas en train de les infantiliser. Je dis simplement, qu'est-ce qui peut permettre d'interagir avec cette personne? Qu'est-ce que j'ai comme modèle? J'ai ce modèle-là d'un petit homme qui n'a pas encore les capacités cognitives, etc. Et donc, ça va passer par le corps et l'affect. Et donc, ce qu'on appelle la sécurité affective. Donc, si vous arrivez à établir une relation de sécurité affective, à ce moment-là, cette personne qui est perdue, elle est trouvable ou retrouvable. Bon. Et alors, donc, je vais terminer là-dessus. Il y a un livre qui s'appelle Interlocutrice. C'est un livre de Geneviève Peigné. En fait, c'est une histoire vraie. Donc, c'est une fille qui rencontre, après la mort de sa mère, ils vont vendre la maison. Et donc, elle est en train de voir tout ce qu'il y a dans la maison. Or, la mère et la fille étaient en très mauvais termes. Ils n'arrivaient pas à se parler, ils étaient toujours en train de s'engueuler. Et la mère avait un Alzheimer qui avait évolué. Donc, elle rentre dans la pièce où il y a une bibliothèque. Puis, elle va pour mettre les livres dans le carton. Elle ouvre un premier livre. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a un tas d'annotations de sa mère. Alzheimer. Et on voit, je vous ai mis une photo... Et on voit, en fait, quand on commence à bien regarder, c'est qu'elle interagit avec les héros et les héroïnes du roman. C'est des romans de guerre. Hein, et donc, elle interagit comment? Par exemple, il y a quelqu'un qui dit, j'ai mal aux... Je ne me souviens plus précisément, mais il y en a plein qui j'ai mal aux dents. Moi aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que ce moi aussi? C'est-à-dire qu'elle est dans la relation. Et je vous dis, quand je vous ai dit perdu, mais trouvable, mais retrouvable, c'est que la personne qui la trouve, c'est le héros du roman. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui, à mon avis, est trouvable dès lors que la relation, ce qui n'était pas le cas avec sa fille, mais la relation avec quelqu'un serait affectivement solide et fiable. Elle pourrait lui dire, moi aussi, là. Mais c'est ça que je trouve. Donc il y a un certain nombre de situations, elle parle des amis, etc. Et au fond, elle interagit. Donc, il faut imaginer cette femme, elle est seule, et elle ouvre des romans, et elle interagit en fonction de ses problèmes physiques, la question de cystite, elle repart là-dessus, elle a mal, très mal. Et au fond, tout son entourage familial tombe de haut, pensait qu'elle était incapable d'interagir. Alors, c'est pas toujours cohérent. Et ce qu'on voit là, pour terminer, au fond, c'est que le récit de ces romans de gare, donc un récit romanesque, on retrouve la notion de récit, est comme un étayage identitaire. C'est-à-dire, je peux m'appuyer sur l'autre. Mais comme le bébé, d'une certaine manière, au départ, il s'appuie sur la mère, sur l'autre, quoi, pour ensuite aller vers le langage et aller vers le récit. Et donc, comme étayage identitaire, à la rencontre d'interlocuteurs qui sont fictifs, mais peut-être qui lui ont permis de ne pas se sentir trop seul dans ces moments-là. On peut s'arrêter là-dessus, d'ailleurs, si on veut pouvoir interagir. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Comme on le dit à chaque fois, c'est la première qui est compliquée. Enfin, la première, c'est moi qui l'ai posée d'ailleurs.
Bonjour. Vous parlez à un moment donné de l'EHPAD comme un tiers-lieu et de la bibliothèque aussi, et on est vraiment aussi dans cette approche au sein des bibliothèques. Ma question, c'est est-ce que vous avez rencontré déjà des EHPAD qui avaient tissé des liens physiques, géographiques avec des bibliothèques, avec des mutualisations d'espace, ce genre de projet? De façon à faire finalement de ces lieux pluriels des lieux où on se rencontre et où le social pour le coup pourrait prendre forme.
J'ai rencontré et j'ai surtout entendu quand je travaillais sur un EHPAD, en fait il appartenait à un établissement très conséquent de la région parisienne. Donc dans cet établissement il y avait une bibliothèque qui appartenait, mais d'une certaine manière, il y avait donc quelqu'un qui circulait, il y avait plusieurs EHPAD, c'était un énorme établissement hospitalier, et donc il y avait des jours, des moments, des après-midi où quelqu'un passait avec des livres, et donc il y avait des liens qui se posaient, mais autrement, notamment lors des précédentes conférences que j'ai pu avoir, il y a des départements où ça s'est mis en place. Après, comment ça... Et si j'ai bien compris, qu'est-ce qui fait que ça se met en place ? Parce que les gens se sont rencontrés et ont discuté. Ce que j'ai compris, moi, depuis que je commence à intervenir auprès des médiathèques, ce que j'ai compris, c'est que ce sont des secteurs professionnels qui n'ont pas l'habitude d'assister à des conférences similaires. Donc, ils ne se rencontrent pas, parce que les lieux de formation, les lieux de conférences... C'est des lieux où il peut y avoir un brassage professionnel. Donc en fait, et ce que j'ai vu là, c'était dans l'Aveyron, quoi. Ce que j'ai vu, c'est qu'après, ils ont commencé à discuter ensemble. Et quand on commence à discuter ensemble, bah, évidemment qu'on a des idées qui viennent, et pourquoi pas venir voir cet EHPAD, etc. Parce qu'au fond, dans les EHPAD, je veux dire... C'est vrai qu'une majeure partie des gens ont des troubles cognitifs et parfois importants, mais il y a des gens qui sont des lecteurs ou des lectrices comme vous et moi. Et alors, bon, bah, qui leur amène des livres ça dépend, quoi, je veux dire, ça dépend s'il y a un soignant. Enfin, c'est le facteur humain qui compte. Et je trouve que trop souvent, c'est le facteur humain qui est déterminant. En général, et dans les EHPAD en particulier, si on a un directeur, une directrice qui est vraiment qui a envie d'impulser quelque chose, l'EHPAD va s'ouvrir. Si on a un directeur, une directrice qui est plutôt, on va dire, dans la gestion, il va pas tellement s'ouvrir. Mais c'est idem pour les soignants et comment les soignants peuvent vous rencontrer. Alors, vous avez en commun les personnes âgées. Et il y a même une anecdote, c'était, je ne sais plus quel département, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est une association, et donc il devait y avoir une rivière, et donc cette rivière-là, peut-être c'était la Garonne, je ne sais plus, cette association s'était donnée pour objet de vouloir récupérer des vieux champs, vieux champs de la rivière. Quoi. Et ils butaient sur quelques champs. Par des circonstances que j'ai oubliées, quelqu'un a dû dire, mais il y a des anciens, parce que le mot ancien a disparu, mais c'était comme ça qu'on appelait les vieux jadis. Peut-être il y a des anciens, et en fait ce sont les vieux de l'EHPAD qui avaient la mémoire. Parce que bon, l'intérêt d'Alzheimer, c'est qu'on a quand même une mémoire à court terme qui ne fonctionne pas, mais une mémoire à long terme qui conserve les traces, en quelque sorte, durablement. Et donc ils ont reconstitué les chansons par les vieux marqués par Alzheimer et l'EHPAD. Donc là, c'est une association, on va dire, culturelle. est-ce que c'est possible, comment c'est possible qu'une médiathèque, une bibliothèque. Voilà. Et d'ailleurs, ben, les lieux de tiers. Attendez. Voilà. Ça, c'est une illustration de ce que j'appelle un EHPAD comme lieu de tiers. Donc il y a quelques-uns, de plus en plus, d'EHPAD qui ont intégré dans leur. Ils n'avaient pas prévu, hein, un poulailler. Et le poulailler, bon, et donc souvent c'est un résident ou une résidente qui sait faire, qui sait s'occuper des poules, tout ça, les œufs. Alors même s'ils ne peuvent pas consommer parce que le côté sanitaire fait qu'ils n'ont pas le droit de manger des œufs, ce qui est idiot, mais c'est comme ça. N'empêche que. Ce poulailler fait qu'il y a des gens du patelin, enfin du village, qui viennent acheter des œufs, aller voir les poules, tout ça, les enfants sortir de l'école. Et donc, il y a tout un va-et-vient. Et c'est pour ça que je l'appelle le renard subversif, parce qu'en fait, le poulailler, il subvertit la structure de l'EHPAD qui n'aime pas tellement les ouvertures, qui est pensée quand même pour quelque chose de la protection, mais d'une telle protection qu'au fond... les gens sont quand même bien contrôlés, pour venir. Mais d'autres fois, c'était une bourse aux graines, et ça pourrait être des livres, je veux dire, vous voyez, et comment, bah c'est, je ne sais pas, mais... Et je trouve que c'est subversif, c'est-à-dire que ça donne de l'ouverture. Subversif, ça veut dire aussi que ça oblige les équipes à réfléchir, à sortir du contexte sanitaire. Ça serait ça l'intérêt de... les EHPAD ou le maintien à domicile, on a très peu parlé de maintien à domicile, mais par rapport aux EHPAD, ça serait quand même l'intérêt d'amener d'abord ça sortirait les équipes de quelque chose, du soin répétitif, etc.